commence avec les grands titres de l'actualité. L'Espagne toujours sous tension avec le cas de la Catalogne. 9 personnalités du gouvernement déchu ont été arrêtées et le président est en fuite en Belgique. Il y aura bien un deuxième procès Mera en France. Le parquet demande l'appel du jugement rendu cette semaine. Et en sport, Tim Cahill blessé et c'est tout le pays qui tremble pour les chances de l'Australie d'atteindre la Coupe du Monde en Russie l'année prochaine. Et nous débutons ce journal avec la situation tendue en Espagne. Donc, une semaine après la déclaration unilatérale d'indépendance, le clan sécessionniste reste mobilisé. Il proteste contre l'arrestation du membre du gouvernement catalan destitué. 7 d'entre eux sont actuellement toujours en détention provisoire. Il y avait eu 9 arrestations la nuit dernière. Un mandat d'arrêt européen devait être lancé également contre l'ancien président catalan qui se trouve réfugié en Belgique. Reportage d'Abla Junaidi à Barcelone.
Dehors, dehors, la justice espagnole. Devant la vieille bâtisse de l'Université publique de Barcelone, une poignée d'étudiants, d'enseignants et de personnel administratif réagissent aux incarcérations prononcées hier contre 9 membres de l'ancien gouvernement catalan. Aya, employée de l'université.
Le gouvernement espagnol viole les droits d'une population qui a élu un gouvernement autonome. Aujourd'hui, on met en prison des responsables politiques importants de ce même gouvernement autonome. Ce n'est pas anodin, car cela est clairement de la répression et ce sont des prisonniers politiques de l'État espagnol.
Beaucoup d'étudiants se disent pour l'indépendance de la Catalogne. C'est le cas de Nuria, étudiante en sciences politiques pour qui c'est la démocratie qui est foulée aux pieds.
Ils ne respectent pas nos droits élémentaires et l'Union européenne ne fait rien pour nous protéger, pour exercer une médiation. Donc on se sent un peu abandonné.
La direction de l'université, elle, a rejeté aussi bien l'usage de l'article 155 par Madrid que la déclaration unilatérale d'indépendance. Elle a appelé au dialogue pour sortir de l'impasse.
Et c'était donc Abla Junaidi depuis Barcelone pour RFI. Écoutez également le président catalan. Il est destitué, il est en fuite en Belgique. Carles Puigdemont.
Je ne vais pas fuir de la justice, je vais aller à la justice, mais à la vraie justice. Donc je ne vais pas échapper, je suis ici. J'ai dit à mes avocats d'exprimer à la justice belge que je suis complètement disposé à collaborer. Vous devez remarquer qu'il y a en moins de 24 heures, mes anciens collègues ont été convoqués à Madrid. Et l'avocat a eu uniquement 24 heures aussi pour étudier la demande du procureur général. Donc il n'y a pas de garantie. Aujourd'hui, l'avocat du cabinet a dénoncé de mes traitements dans le transfert à la prison. Ils ne sont pas les garanties pour avoir un judice, une sentence juste, indépendante, qui puisse échapper à cette énorme pression, à cette énorme influence de la politique sur le pouvoir judiciaire en Espagne.
Voilà, donc Carles Puigdemont, le président déchu de la Catalogne. C'était un entretien sur la RTBF, la radio-télévision belge. En France, maintenant, il y aura donc un deuxième procès Mera. Le parquet général de Paris a fait appel de la condamnation d'Abdelkader Mera, le frère de Mohamed Mera, qui avait commis des actes terroristes, tuant 7 personnes en 2012. Il a été condamné il y a quelques jours pour association de malfaiteurs et requis 20 ans de prison. Insuffisant, selon le parquet, donc, qui souhaitait l'inculpation de complicité d'assassinat. Patrick Champré.
Le parquet estime que la cour d'assises spéciale n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques des faits qui lui étaient soumis. Et en cela, il rejoint l'avis de nombreuses familles de victimes. Car si Abdelkader Mera a bien été condamné pour association de malfaiteurs terroristes, il a en revanche été acquitté pour complicité d'assassinat. Or, c'est ce chef d'accusation qui est le plus répréhensible aux yeux de la loi. Il peut être puni par la réclusion criminelle à perpétuité. En faisant appel, le ministère public souhaite donc que la justice se penche de nouveau sur cette accusation. L'avocate générale Naïma Rudloff, lors de son réquisitoire, avait déjà tenté de démontrer la culpabilité d'Abdelkader Mera pour complicité d'assassinat. Mais faute de preuves, les jurés avaient accordé le bénéfice du doute à l'accusé en l'acquittant. En appel, c'est une cour d'assises composée de 9 magistrats, tous différents de ceux qui ont siégé en première instance, qui jugera l'affaire. Mais l'avocat général, celui qui requiert la peine, pour rappel, Naïma Rudloff avait demandé la réclusion criminelle à perpétuité pour Abdelkader Mera et 20 ans de réclusion pour Feta Malki.
C'était donc Patrick Champret pour RFI. En Syrie, nouveau recul du groupe l'État islamique qui ne contrôle plus qu'un tiers de la province de Deir ez-Zor, le dernier grand centre urbain où était d'ailleurs présent le groupe djihadiste dans le pays. Mais cela ne signifie pas la fin du groupe dans la région. Écoutez Alain Rodier, directeur de recherche à l'université de la Sorbonne à Paris.
On peut dire que Daesh a perdu maintenant toutes les grandes villes, la dernière étant Deir ez-Zor. Mais c'est peut-être pas la chose la plus importante, parce qu'en réalité, Daesh a éclaté dans le désert, donc ils sont encore présents dans le désert est syrien et ouest irakien. Mais le plus important, c'est qu'ils perdent de plus en plus le contrôle de la frontière entre ces deux pays. Donc cela va provoquer des difficultés pour passer d'un pays à l'autre, alors que jusqu'à maintenant, eh bien, ils circulaient tout à fait librement dans la zone.
Voilà, donc Alain Rodier, le directeur de recherche à l'université de la Sorbonne. Daesh est également en difficulté en Irak. On écoute Ahmed Bassem, il est sous-officier de l'armée irakienne.
La libération de la ville d'Al-Qa'im est une très bonne nouvelle. Selon les informations qui remontent du terrain jusqu'au quartier général de l'armée, ce sont en tout trois localités qui ont été reprises dans la région d'Al-Qa'im. Et l'armée a pu rentrer dans cette ville et la libérer. Les forces antiterroristes irakiennes ont été déployées. Mais après Al-Qa'im, il va falloir libérer la zone stratégique dans le désert de la province d'Al-Anbar. Cette zone est un fief terroriste. Elle a d'abord été contrôlée par Al-Qaïda en 2005, puis c'est Daesh qui en a pris le contrôle ces dernières années. Cette zone désertique est un haut lieu de contrebande et de trafic d'armement pour Daesh. Cette zone s'étend jusqu'aux frontières entre l'Irak et l'Arabie Saoudite et l'Irak et la Jordanie.
Voilà donc Ahmed Bassem, sous-officier de l'armée irakienne. 13h08 en Australie maintenant, et les retombées sur la loi de la double nationalité au Parlement australien. On va de surprise en surprise, et cette semaine, c'est le ministre de l'énergie, Josh Frydenberg, qui est mis en cause. Il aurait une potentielle citoyenneté hongroise qu'il ignorait, car sa mère est née là-bas. Ce dernier se défend de toute cette histoire. On l'écoute.
So it's an absurd proposition to think that my mother can retrospectively be made a Hungarian citizen against her will. I'm very confident on my position that I am an Australian citizen and an Australian citizen only.
Voilà donc le ministre de l'énergie, Josh Frydenberg. De son côté, le Premier ministre Malcolm Turnbull parle d'économie. Il demande au gouvernement de la région de faire plus pour défendre le libre-échange avec l'Asie, notamment. Et il donne un indice également. Le pays va débuter des discussions pour augmenter le libre-échange de biens avec l'Union européenne. On écoute Malcolm Turnbull.
Establishing a free trade agreement between Australia and the European Union would significantly strengthen those economic ties. And I'm very pleased that we have concluded with the EU a scoping exercise for a future free trade agreement. And that would bring benefits to all EU members in the form of new investment, jobs and opportunities for innovation. And we look forward to starting the negotiations in the very near future.
Le Premier ministre Malcolm Turnbull, vous n'avez sûrement pas pu échapper au lancement du dernier smartphone d'Apple, l'iPhone 10, mais dans son ensemble, ce sont les ventes de smartphones à travers le monde qui se portent plutôt bien, même s'il y a certains ralentissements. L'analyse et les explications avec Aniska Comor.
Dans son ensemble, l'industrie de smartphones continue de croître, mais à un rythme beaucoup plus lent que ces dernières années. Une hausse de 2,7% au troisième trimestre, soit un peu plus de 373 millions d'unités vendues. Mais le secteur a encore de l'élan. Témoin, la compétition que se livrent les grandes marques. Ce sont toujours les cinq plus gros fabricants qui se partagent le gâteau. Le premier vendeur reste le sud-coréen Samsung, suivi de l'américain Apple et du chinois Huawei. Viennent ensuite deux autres groupes chinois, Oppo et Xiaomi. Malgré tout, le quatrième trimestre sera très compétitif pour ces fabricants. Les consommateurs attendent de pied ferme le lancement des modèles phares haut de gamme avant la fin de l'année, avec notamment la sortie d'iPhone X. Ces appareils haut de gamme concentrent toute l'attention du marché et tirent vers le haut le prix de vente moyen. Cependant, la surprise pourrait venir de quelques autres fabricants chinois. Leur force, des modèles beaucoup plus abordables dont les ventes progressent actuellement de manière spectaculaire hors de Chine.
Et c'était Aniska Comor pour RFI. Sport et football, la mise à pied avec effet immédiat de Patrice Evra, le joueur de l'Olympique de Marseille. Il a asséné un coup de pied, un supporter lors d'un déplacement en Ligue Europa. C'était au Portugal, à Guimarães. On écoute le porte-parole du club de l'OM.
La première chose que je peux dire, c'est quand on est effectivement un joueur expérimenté comme les Pat Evra, on ne peut pas se permettre de répondre aux insultes, combien même elles sont inacceptables. On avait la chance d'avoir plus de 500 de nos supporters ici et je les remercie d'être venus. Par contre, il y a un pseudo-supporter, parce que celui-là n'est pas un supporter de l'OM, qui a insulté Pat et donc l'un de nos joueurs, et ça c'est pas admissible, mais quand bien même il se passe ça, bien évidemment que Pat ne devait pas répondre du tout. À l'arrivée, on a perdu un joueur sur le banc, une possibilité de changement, et on a perdu un joueur et une possibilité aussi de changement pour le prochain match, au moins à Konya Sport, si ce n'est plus.
Voilà, donc le porte-parole de l'Olympique de Marseille. Grosse frayeur en football également dans le camp des Socceroos. Tim Cahill, le joueur phare de la sélection nationale, s'est blessé hier lors d'un match de championnat. Entorse à la cheville, on ne sait pas encore s'il fera partie au moins du voyage vers le Honduras. Un voyage qui prendra 30 heures, je vous rappelle. Voyage pour les Socceroos et leur dernière chance de qualification pour la Coupe du Monde en Russie. On écoute Graham Arnold, l'entraîneur de Sydney FC.
I didn't see it. I just heard him scream, you know, and when he went down just in front of the bench. And when he walked off, I went over to him to shake his hand, see if he was all right, and he said he rolled it. You know, first thing I thought of straight away was national team, you know. Timmy's our star, mate. Can't give so much credit to someone who does so much for the country and what he did against Syria, 120 minutes, and what he did was phenomenal. And let's all keep our fingers crossed he's okay.
Voilà, donc Graham Arnold, l'entraîneur de Sydney FC, qui jouait donc contre Melbourne City hier, là où a eu lieu l'accident de Tim Cahill. 13h12, presque 13 minutes. Coup d'œil météo à travers le pays. Perth, il fera 30 degrés. Adélaïde, 23. Melbourne, 16 degrés. Hobart, 14. Canberra, 20. Sydney, 19. Brisbane, 31. Cairns, 32 degrés. Et accrochez-vous à Darwin, il fera 35 degrés. Retour sur les grands titres de l'actualité. Et le grand titre, l'Espagne, toujours sous tension avec ce cas donc de la Catalogne. 9 personnalités du gouvernement déchues ont été arrêtées. Son président est en fuite en Belgique. Il y aura bien un deuxième procès Mera en France. Le parquet demande l'appel du jugement rendu cette semaine. On vient d'entendre en sport, Tim Cahill est blessé. Sera-t-il présent pour le match contre le Honduras? Question, des réponses, on l'espère, dans les quelques jours qui viennent.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench